pour le débat animé par Denis Fouquet, j'appelle Boubou de Strychnine, Bébert, Tungsten de Stagelag, François Renoux, Richard Berthoux, Pierre Lascourège, il n'est pas là, Alain Perrier, Gilbert Rinchbach, je ne sais pas si je le dis bien, excusez-moi, Stéphane Medjoub.
Bon, je vais tenter de modérer ce débat. Je compte sur vous pour ne pas vous modérer, justement. Vous modérez pas, bon, il faut que ça soit vivant, le truc. On est censé parler de cette époque, quand même, qui nous a fait vibrer, quoi. Qu'est-ce qu'on écoutait, qu'est-ce qu'on vivait, qu'est-ce qu'on buvait, qu'est-ce qu'on fumait, etc. Et qu'est-ce qu'on jouait, comment on se retrouvait pour jouer, est-ce qu'on se tapait sur la gueule, entre groupes. Tiens, ça, c'est une question que j'ai envie, moi, de poser à tous les acteurs, là. C'est, est-ce qu'il y avait des rivalités entre les groupes? Ou est-ce que c'était les bisounours, la fraternité, etc. Est-ce qu'il y avait une entraide? Est-ce qu'il y avait une...
C'était les bisounours, une fois qu'on s'était foutu sur la gueule. Ça arrivait, si. Souvent, juste avant de jouer.
Ouais, j'ai entendu dire...
Chez Stalag, ouais. Les autres, je sais pas.
Hein. Alors, chez les punks anglais, en tous les cas, ça existait, quoi. Il y avait à Mont-de-Marsan, 77, les Clash et les Jams qui n'ont pas voulu jouer ensemble. Ils se sont lancés des canettes de bière sur les amplis et sur les guitares pour que ça colle, etc., pour qu'ils jouent pas, quoi.
Ah, t'avais de la pression avant de jouer, t'avais un truc... Enfin, c'est parce qu'on vivait les choses à donf, quoi. Hein. Donc, on avait 18 voilà. ans, on était à fond dedans. Et donc, des fois, il y avait des tensions qui montaient.
Il n'y a pas des anecdotes, là, à raconter
Eh ben, créons.
Alors, créons, vas-y.
On s'était foutu sur la gueule au fond du champ. Et après, on était revenus tout contents.
Oui, au sein même des mêmes groupes, parce que des fois, il y avait des conflits, on se battait même entre nous, parce que quand le chanteur arrivait pour la balance bourré et qu'il ne se rappelait plus des paroles, ben là, on n'était pas contents, et des fois, ça dégénérait, et une fois, ça a fini dans un fossé, effectivement, il y avait deux musiciens de Stalag, on les attendait sur scène pour la balance, ils étaient en train de se battre dans un fossé, des coups sur la gueule. Et voilà. Mais après, il y avait des rivalités entre groupes, il y avait une émulation, et chacun essayait d'être le meilleur possible. Et il y avait énormément de groupes sur la même scène, c'était génial, hein. D'ailleurs, il y avait des concerts presque toutes les semaines. Et donc, cette ambiance bord de rock, ça faisait que chacun voulait être meilleur que l'autre et on était tous en concurrence, quelque part, avec Strychnine qui sortait du lot. Mais bon, après, il y avait des clans et des rivalités, mais on se retrouvait tous dans les mêmes locaux, on partageait le même local à un moment avec Strychnine.
C'est ça, voilà aussi. Il y avait des
groupes les entrepôts à Morue, à Bègle, ou dans notre cave au Capéran. Et puis, on se mettait en commun, on avait les mêmes sonorisateurs, le matos, les camions. C'était tout fait avec des bouts de ficelle, on n'avait aucun fric. C'est ça aussi. On n'avait plus la sécu, à la fin on n'avait rien, quoi. Hein, on vivait en squat, c'était un peu bizarre, quoi. Donc il fallait se débrouiller, et là la solidarité était là. Puis il y a eu les tournées Bordeaux Rock, donc
alors voilà,
une association, donc tu peux en parler peut-être.
Je vais pas monopoliser. Bordeaux Rock, je voulais parler donc en 77 de Strychnine et Control, où il y avait une vraie rivalité, où on se balançait des vannes les uns envers les autres, mais où surtout les fans de chaque groupe se tapaient dessus. Je me rappelle d'un concert à la Pergola qui s'était mal terminé avec des fans de Strychnine qui venaient foutre le bordel. On disait, on sait quoi, ces bourgeois de contrôle, alors qu'on venait tous du même milieu, que ce soit Strychnine ou nous, ouais. Sauf un peut-être. Et oui, il y avait une vraie rivalité.
Alors, cette tournée Bordeaux Rock, elle était en quelle année? Parce que c'était...
Alors, Bordeaux Rock, Donc il y avait
80-81, là c'était vraiment là où on a beaucoup tourné, 80.
Oui, Standard,
Stéo, qui avec qui
Stalag.
Alors on parle toujours d'Estéo, mais au départ c'était Réverbère, parce que Estéo n'était pas encore formé, et le chanteur de Estéo, il chantait dans Réverbère. Donc on faisait des toutes premières tournées Bordeaux Rock, où il y avait un peu trois styles différents. Il y avait Réverbère qui était assez Doors, il y avait les Standards, et Stalag qui était vraiment punk à la Sex Pistols un peu, ou à la Ramones. Et donc ça faisait trois styles, voilà. Et donc effectivement trois styles différents. Remarque, c'est peut-être mieux parce que du coup il y avait moins de concurrence, on était plutôt complémentaires. Oui. Et il y a eu certaines tournées où il y avait Strychnine à la place de Standard ou autre, ça dépendait des dispos des groupes. Mais Estéo est venu qu'après. Hein. Stilettos, ils ont fait du Bordeaux Rock.
Il n'y a pas de représentant de Stilettos.
Alors, il y avait une énorme césure entre les musiciens rock'n'roll et les musiciens plus étudiants en école d'archi, etc., comme les stagiaires et Stilettos, etc. Et donc là, il y avait vraiment une rivalité, mais assez amicale, parce que d'ailleurs, les premières répétitions des stagiaires, c'était chez moi, dans mon salon, rue des Menus, et c'était dans le local de Stalag. On voit qu'il y avait quand même des accointances. C'était des rivalités quand même bon enfant, et on se retrouvait tous à la casserole ou au bar des cours autour d'une bière, et voilà. Quand j'ai cité tout à l'heure l'ambiance, on était tous des déviants pour l'époque, donc à un moment, on n'allait pas en plus se taper sur la gueule en permanence. On se faisait déjà arrêter par les flics, ça allait quoi.
On se retrouvait chez le même dealer et dans les mêmes bars.
Et les bars que vous fréquentiez, alors c'était plus quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme bar un peu emblématique à Bordeaux?
Le bar des cours?
Ah, le bar des cours.
Le BDC. Le fameux BDC, ça a duré un moment. Autrement, mais après, il y a eu. Le Babylone.
Le Babylone. Ah oui, alors ça c'était plus tard, ça.
Ça, c'est plus tard.
Mais en 76-77, il n'y avait pas grand-chose.
Au début des origines, il y avait, on se voyait beaucoup à la casserole. À la casserole, pour Alsace-Lorraine, c'était un petit bar de quartier qui était le QG de Strychnine. Et Stalag venait aussi. Autour des mêmes flippers Kiss de l'époque, parce qu'on faisait beaucoup de flippers à l'époque, voilà. Et il y avait le bar des cours n'était pas encore ouvert. On allait pas mal dans les bars de la Victoire où il y avait un Royal Flush qui claquait souvent. Il était facile à faire. Et il y avait un truc au début de la rue Sainte-Catherine. Là, je sais plus comment il s'appelait ce bar, aussi où tous les musiciens se retrouvaient le soir.
Sous le bœuf sur le toit.
Ouais, sous le restaurant Le Bœuf sur le toit, et je ne sais plus comment ça s'appelait, mais on allait là, ouais. Et tous les clubs qui sont arrivés après, le Performance, le Babylone, tout ça, c'était après.
Le Luxor, tout ça, c'est après.
Le Chez-Soi, voilà. Bien.
Hier, Francis.
On était tous au Chez-Soi. Et donc, on retrouvait beaucoup de musiciens en soirée, on se couchait tard, on se levait tard. Mais nous, on répétait tous les jours. En fait, on faisait que ça. Et après, il y avait les autres qui étaient étudiants ou qui avaient déjà un boulot et qui répétaient le week-end. Donc, c'était là un peu la dichotomie entre les deux styles de musiciens. Ceux qui voulaient faire ça et qui pensaient qu'ils allaient y arriver, qu'ils allaient signer, qu'ils allaient devenir des stars. Donc, jusqu'au bout, quoi. Quitte à la fin à se retrouver sans rien, sans plus un flush. Et puis, les autres qui avaient une autre approche. Les deux se valent, hein. Après, il faut assumer derrière, quand tu as tout abandonné, tes études, ton boulot, et puis que tu te retrouves le groupe Split, tu mets 25 ans à t'en remettre, hein, après.
Ouais, nous, on n'était pas vraiment un groupe punk, nous, on était un groupe de rock à l'époque. Moi, je sais que j'ai décidé de tenter ça la première fois que j'ai vu Strychnine. Ça s'appelait pas encore Strychnine, c'était Stress à l'époque. Et putain, j'ai vu les Stooges sur scène, quoi. Pour moi, ça a été, on peut faire ça ici. Donc, c'est ce jour-là que j'ai décidé un jour d'acheter une guitare et de faire quelque chose, quoi. Et au niveau des anecdotes avec Eric, tout à l'heure, on se rappelait d'un truc. On avait joué avec Stilettos à la Benoge. Et on avait des copains qui nous avaient suivis. Nous, on n'était pas punk particulièrement, mais on avait des potes de Gradignan qui étaient un peu agités. et on avait été convoqué la semaine d'après chez Stilettos parce qu'on ne tenait pas notre public. Quoi. C'est quand même une époque. Ça.
Peut-être que tout le monde ne connaît pas les gens qui sont autour de la table, ni les groupes que représentaient. Donc c'est Alain de Dépression.
De Stépression.
François Renaud, donc, qui a joué dans au moins trois des groupes, hein, Contrôle.
Riot et Contrôle, c'est le même groupe, donc 77, 78, et ensuite les Standards.
Ensuite, les Standards, bien sûr. Mm. Boubou, qui a joué avec la moitié des... Hein,
des groupes de Bordeaux.
Strychnine, Standards et Gamine.
Les gamines, ah bébé oui, bon alors ça c'était plus tard, c'était les années 80, donc évidemment, là ça tustait quand même quoi, non, il y avait un peu, de, non ouais, c'était...
Mais si je peux dire une chose, je comprends pas trop de vouloir mettre, enfin séparer le punk du rock, ouais. On est tous issus d'influences de groupes qui étaient soit vraiment punk, et même dans un groupe, il peut y avoir un ou deux morceaux vraiment qui répondent au canon du punk, mais où d'autres morceaux sont un peu différents, plus rock, etc. Vouloir absolument différencier le punk du rock, je trouve que c'est un peu une hérésie.
À la base, Ramones, c'est le rock. Hein. C'est le rock, la base.
Ben oui, c'est les influences. C'est le après, il y a une attitude. Après, il y a les Stooges, il y a les Ramones, il y a
c'est ça.
Tous ces groupes qui ont amené une façon de faire la musique plus qu'une façon d'être punk.
Ouais. Est-ce qu'on pouvait faire une différence entre l'attitude punk anglaise, qui pour nous est peut-être plus marquante, que l'attitude punk américaine ? Est-ce que vous pensez, vous qui avez été dans cette mouvance-là, qu'il y a une différence notable entre les deux ? C'est qui les punk américains ? Ouais, entre le rock US, le punk US et le punk anglais.
Moi, je pense que ça n'a rien à voir, le punk anglais et le punk américain. Bon, les Américains, c'est plus rapide, plus, enfin, les mélodies ne sont pas les mêmes. Et le punk anglais, plus, enfin, pour moi, je suis plus proche du punk anglais que du punk américain. Hein. Le punk américain, c'est plutôt Los Angeles, par là-bas, tous les groupes actuels. Là.
Il y avait les Ramones.
Mais à l'époque.
Oui. Bah, les Ramones, évidemment.
Alors, on était influencés par les deux, quand même. Alors, on pourrait dire que le punk américain, il est plus intellectuel, etc., issu de Television, Richard L., etc., Patti Smith un peu. Et que le punk anglais, c'était plus des prolos mineurs de fond, etc. Mais en fait, quand il y a les Ramones, c'est aussi des petites teignes de New York. Et on était influencés autant par les uns que par les autres, je pense. Moi, j'ai vraiment complètement kiffé sur le premier disque de Richard L. C'était vraiment je l'ai écouté en boucle. Blank Generation. Ça, c'était vraiment un truc. Et d'ailleurs, quand on écoute l'étudiant, le solo, c'était vraiment issu de ça, parce qu'il avait un guitariste qui faisait des trucs complètement dissonants. Il faisait pas des solos à la Chuck Berry. Il faisait des trucs. Et moi, j'avais essayé de faire ça, d'essayer de faire un truc qui ressemblait à rien, qui pouvait rappeler le rock'n'roll classique.
Alors moi, je faisais partie de Dépression et après des Illustres, un groupe punk de Bordeaux qui a été dénommé comme ça. On avait essayé de jouer des Dead Kennedys. Bon, on n'a jamais réussi, parce que on n'a fait qu'une répétition. On n'a jamais joué. Et à la fin de la répétition, on a cassé la batterie et un ampli. Donc ça s'est arrêté là. Mais, alors oui, bon, je vais présenter les Illustres. Donc il y avait moi, Jean-Louis Boisson au chant. Tout un programme. Et Rasco à la guitare. Donc, on jouait sans accordeur. C'est ça, pour les musicologues, ils ont oublié de le dire. Au niveau du bourrinage, la basse, tout ça, oui. Mais nous, on jouait, on n'était pas accordés, déjà. Et donc, on a joué qu'une fois, et ça a mal tourné, à cause des Dead Kennedys, et on avait essayé aussi un Pistols. Mais voilà. Et les illustres étaient connus parce qu'on avait marqué le nom sur nos perfectos. Et comme on était tricards partout, on ne pouvait pas rentrer. Dans les concerts, dans les bars. Tout le monde nous a connus à cause de ça, grâce à ça, je sais pas. Après la répète, moi j'ai tout arrêté, je suis parti sur le bassin, j'ai jeté mon perfecto et j'ai acheté des disques des Beach Boys.
Stéphane, toi qui es un passionné, voilà, qu'est-ce que tu peux en dire, Antoine ?
De la cordeur. Qu'est-ce que je peux en dire de quoi ? De cette période-là ? C'était bien, c'est qu'on traînait partout. On était à 200 à l'heure quand on aimait le rock, on allait à la campagne, on allait dans les maisons des jeunes. Enfin, ça nous a appris aussi à voyager. J'étais pas forcément fan de tel groupe ou tel groupe, mais j'allais voir partout dès que alors ça bougeait. Puis la mentalité était énergique au point de vue public comme au point de vue musicien, ce qui fait qu'il y avait un entrain où on était toujours... Bordeaux était un peu dangereux même, on pourrait dire, dans le côté un peu nocturne, profond. Voilà, mais après, moi j'avais pas de titre, j'allais voir des concerts et puis on s'éclatait.
Est-ce que tu as des enregistrements inédits ?
Moi personnellement, non. À cette période, j'étais plutôt au premier rang, au milieu. Alors, je me suis mis bien après à acquérir du son moi-même de concert. Cette période-là, j'en ai quelques-unes, mais qui traînent sur le net, que vous trouverez partout en réalité, mais pas moi, je ne possède pas. J'en ai les plus récents.
Si on peut essayer de distinguer l'attitude punk, peut-être que Stalag c'était plus punk parce qu'il y avait le côté do it yourself, c'est-à-dire que quand Bébert a rejoint le groupe, il avait une basse mais il ne savait pas en jouer, un mois après on était sur scène. Et c'est là où, alors que Strychnine il jouait beaucoup trop bien, ils étaient des virtuoses pour nous, on n'arrivait même pas à faire le quart de ce qu'ils savaient faire. Et les guitaristes étaient très bons, tout ça. Nous, on était obligés de faire des accords à toute allure et d'exprimer cette spontanéité, quoi. Donc, du coup, peut-être que tout le côté dangereux de Bordeaux se retrouvait à nos concerts et gravitait autour du groupe. Et c'était très... pendant nos concerts, je me rappelle, on faisait les fusils, les chansons les fusils, et les mecs jetaient des pétards allumés sur la scène. D'ailleurs, sur les bandes, on l'entend, on a l'impression qu'il y a un contretemps de batterie. Mais non, c'est des pétards qui explosent sur scène, où ils nous balançaient des canettes, nous, on crachait sur les gens. Et le public aimait ça, et ça drainait encore plus de punk, comme le grand Claude, célèbre entre tous, qui, plusieurs fois, essayait de nous démonter la tête, ou Jimmy, qui était un petit truand bordelais, et qui nous menaçait en permanence de nous casser la tête. Une fois, il nous a pris dans une impasse avec un nunchaku, parce qu'on lui avait pas payé une deux chevaux qu'il voulait nous vendre, un truc comme ça. Et on s'en est sorti par la négociation. Mais ce n'est qu'un aspect. Il ne faut pas ramener le punk bordelais ou Stalag à ça. C'était le folklore, quoi. Mais il y avait aussi beaucoup de musique.
Bébert, est-ce que tu peux nous parler, enfin toi qui n'étais pas bassiste au départ, est-ce que tu peux nous parler de ta Fender Precision bleue ?
Eh bien, j'ai appris que maintenant c'est le gars des... C'est Portier de Nuit, je crois. Enfin, qui l'a, cette basse ? Et puis, il l'a toute décapée. Non, elle est en bois.
Bon, au comme départ, toutes t'avais basses. Une
guilde ? Moi, j'ai eu plusieurs basses. On rentrait dans les magasins, chez Gabi, enfin dans tous les magasins. On regardait ce qu'on voulait, t'as compris, et puis on partait avec. Hein. C'était comme ça. Hein. Les mecs,
chez
ils nous.
Gabi, t'as volé hein basse Gabi.
Pas volé, c'était pas du vol. Hein. Non, c'était pas cadeau non plus. Mais comme on n'avait pas de fric, on peut donner la basse qu'on avait. On disait, tiens, je prends celle-là. Bon, le mec, bon, tu me paieras. Et puis, bah, c'était comme ça, quoi. Ouais. T'avais pas besoin d'argent pour avoir de beaux instruments. Hein. Moi, je jouais sur Rickenbacker, sur des choses comme ça, mais bon, j'avais pas de thunes.
Hein. Des fois, il y avait des instruments qui tombaient des camions.
C'est vrai que Gabi, il a fait vachement pour le rock à Bordeaux, quoi. Sans lui, Je pense que ouais, ça aurait été différent. Le premier à nous amener les accordeurs, peut-être.
D'ailleurs, malheureusement, il a fait faillite.
Les premiers Korg avec la molette au milieu, là. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y avait un groupe qui était dans la panade, tu avais un ampli qui avait fumé. Puis toutes les cordes, de toute façon, c'était le seul qui était là. Les cordes d'Ernie Ball, on s'était obligé d'y aller régulièrement quand on avait assez de fric pour s'en acheter. C'est-à-dire qu'en général, avec le cachet d'un concert, on avait juste de quoi s'acheter les cordes pour le prochain. Et lui, il te dépannait, il te prêtait un ampli. Et c'était génial d'avoir ça. Il y a quand même des personnages sans qui tout ça n'aurait pas existé. Roder pour la sono et Gabi pour le matos. Ça a été quand même... Il n'y a pas que les musiciens, quoi. S'il y a tout un environnement autour qui était nécessaire. Les gens qui conduisaient les camions aussi.
Et je voulais juste finir sur Gabi. En effet, il était essentiel, mais malheureusement, à cause de cette générosité, il a fait faillite. Il n'avait aucune comptabilité, il ne savait pas qui lui devait combien, il ne savait pas... Non. Et puis un jour, les impôts sont arrivés, mais où il passait l'argent?
Les sonorisateurs... À l'époque, ils apprenaient sur le tas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école, etc. Donc, ils apprenaient avec les groupes, quoi, hein, sur les concerts, sur les trucs, etc. Et puis, il y en a un paquet comme ça. Et peut-être que Alain, il pourrait nous parler aussi du studio Le Chalet, parce qu'il y a eu un truc important là-bas. Le Chalet a été un des studios vecteurs.
En fait, c'est l'endroit où on répétait, nous. Et donc, Jean-Marc avait acheté une table et un magnéto pour pouvoir faire des maquettes là-dedans. C'est de là que c'est parti, hein, petit à petit. Donc, je pense que beaucoup de monde par ici a dû y passer à une époque ou une autre. Ça a été une belle histoire, le chalet. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est une vieille histoire aussi, comme le reste.
C'était quelle année ?
Écoute, il a commencé ça va être au début des années 80, mais au début, c'était pas du tout, c'était pas destiné à. Voilà. Et donc, après, il a grossi en faisant venir du monde, et puis, c'était pas parti comme ça au départ, quoi.
Ouais, ça, c'était un autre gros problème à Bordeaux. Comment enregistrer quand tu n'as pas de studio ? Il n'y avait qu'un studio, c'était le studio Isis. Donc, c'était des gens qui faisaient du rock planant, des Xalf, etc. Donc, c'était très compliqué. Nous, notre première maquette, on l'a faite là. Et le 45 tours aussi. Et là aussi, le 45 tours ne rend pas du tout l'énergie qu'il y avait sur scène. Mais c'était hyper compliqué de leur faire dire « Mais si, je veux une guitare saturée, je te promets, mets tout à fond, vas-y, fous tous les potards dans le rouge. » Mais ils ne voulaient pas. Et donc, ça a un peu édulcoré les disques aussi. Hein. Je ne sais pas où vous avez enregistré les premiers, vous ?
Nous, le premier 45 tours, on a été enregistré en banlieue parisienne. On a été courir dans un garage là-bas à Tremblay-les-Gonesses. Ouais, je me souviens du nom, c'est rigolo. Tremblay-les-Gonesses. Et c'était dans un garage chez un particulier qui avait une 16 pistes, quand même. Et on a enregistré là-bas, comme on a pu, pendant 2 jours. Et puis on est rentré avec notre... 2 jours, oui, 2 jours. On a mixé ça tranquillement, ouais. Voilà.
Et très peu de magnétophones, pas de caméscope. Ouais. C'est pour ça qu'il y a très peu d'archives. Il y a des cassettes audio qu'on se passait, qu'on branchait sur la console pendant les concerts pour faire un témoin. Donc en général, on entend très peu les guitares, tout ça, parce qu'elles étaient tellement fortes sur scène qu'il n'y avait aucune reprise sur la console. Et puis après, on écoutait après le concert dans le camion. En rentrant sur Bordeaux, on écoutait les cassettes. Et là, le mini-cassette, souvent, il était un peu vétuste. Et paf, la bande, elle partait à l'intérieur du machin. Donc, on dépliait le spaghetti. Après, avec un crayon à papier, on remettait. Et c'est ces bandes-là qui ont servi à faire les bandes de ce disque-là, qui sont là. Et des fois, on entend bien que le son se barre à droite, à gauche et tout. Mais c'est parce que ça s'est tiré des cassettes. Et c'est tout ce que j'ai pu sauver, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas de matériel, il n'y a pas d'image, il y a très peu de choses. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette démarche historique, parce que ça va être compliqué de retrouver des choses. Et puis, il y a une autre chose dont on ne parle pas, c'est les caves de Bordeaux. Et sans les caves, il n'y aurait pas eu de rock ou de punk à Bordeaux. Hein. Et c'est aussi l'architecture de la ville. Ces caves où on répétait, Strychnine ont répété. Nous, la nôtre, elle était rue des Capérans. Donc il y avait ça, les caves et le quartier espagnol. Et le fait que les gens acceptaient que dans une rue, il y a un bordel pas possible qui sortait des soupirails des caves. Ou même, nous, à l'époque, au début, on répétait dans mon appart. Et rue des Capérans, dès que la Garonne était un peu haute, il y avait 15 cm de flotte dans la cave. On avait mis les amplis sur des palettes pour éviter ça. Et on répétait à ce moment-là, des fois, dans l'appart. Et t'as toute la rue qui rigolait. Aujourd'hui, c'est inimaginable, ça.
Je vais vous raconter un truc. Quand on répétait dans la cave, bon, dans la cave, il y avait un soupirail, un trou. Et quand il pleuvait, il y avait de l'eau par terre. Donc on se mettait sur des palettes. Lui, comme il est grand, il se mettait sous le soupirail et on répétait toute l'après-midi. On ne voyait pas sa tête.
Ouais, j'avais 2 mètres carrés dans la cave où je pouvais me mettre sans toucher.
Autre sujet tabou, les cachets des concerts. Il y en avait ou pas? Vous étiez payé?
Et si, on en dit quand même un peu payé, un petit peu, oui, ouais. Mais enfin bon, c'était pas la folie. Hein. C'est-à-dire c'était 50 balles par musicien, ouais, ouais. À peu près, ouais. Pas déclaré, bien sûr.
Pas tous les groupes,
non,
apparemment.
En plus. Ouais. Comment?
Je dis, c'était pas, c'était pas le cas de tous les groupes. Il y avait des groupes qui jouaient gratos, point.
Nous, on avait trouvé la solution, on a décidé de vendre de la bière quand on pouvait, mais on a vu qu'on en perdait plus qu'on en gagnait avec ça.
Non, faut pas rêver, on gagnait rien, quoi. Ce que je disais, on gagnait juste de quoi payer l'essence pour entrer et acheter des cordes. Et c'était le problème. Quand le concert n'était pas annulé, parce qu'il y en avait eu à la Pergola à Codéran, concert, je sais pas si c'était un Bordeaux Rock ou quoi. On est arrivé devant la salle le soir et là, il y avait un panneau. Suite à une décision municipale, le concert est annulé. Et tout le public était là et nous, et portes fermées, des chaînes, voilà. Et donc, on a dit, allez, on va tous rue des Capérans, on vous fait un concert live dans notre appart au-dessus du local. Et on l'a fait. Il y avait 70 personnes dans l'appart et on a monté la batterie, les amplis, et on a fait notre concert là. Mais, donc, c'était dur de jouer, hein. On arrivait à se débrouiller avec la fac, l'Amphi 700, etc. Mais c'était souvent des petites associations qui essayaient de monter des trucs, malgré qu'à chaque fois, les municipalités avaient peur. Il va y avoir des jeunes, ça, il va y avoir de la casse. C'était pas facile. Hein.
Oui, alors, c'était pas facile, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on peut plus du tout jouer, aujourd'hui. À part ici. Oui, voilà, on parle même plus du tout d'argent et on peut plus jouer nulle part.
Ouais, on n'a pas été si malheureux que ça finalement.
Finalement.
Ouais, donc finalement c'est toujours la même histoire. Bon, donc on a fait le tour du débat, on a tout vu. Vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Allez.
Voilà, monsieur Christophe Pécou.
Hein, c'est bon, ça marche. Oui. Donc je voulais poser plein de questions, mais bon, je vais restreindre. Moi, je travaille dans le cadre de PIN sur cette histoire, mais en Normandie. Et donc, quand on analyse un petit peu la diffusion du punk en Normandie, il y a des facteurs qui interviennent. Et j'aimerais bien savoir, justement, si on peut retrouver ces mêmes éléments sur le territoire de Bordeaux. Par exemple, les concerts punk précoces, on va dire, au Havre, par exemple, vous avez les Ramones qui viennent en 76, vous avez Clash qui joue à Rouen en 77... Vous avez les Stranglers, vous avez. Donc, est-ce qu'on peut retrouver aussi des concerts marquants à Bordeaux, de groupes nationaux ou internationaux, parce qu'il y a aussi des groupes français, il y a Star Shooter, enfin, les groupes punk de l'époque, Asphalt Jungle. Est-ce qu'on retrouve à Bordeaux, par exemple, des disquaires fédérateurs, comme on peut trouver à Rouen, c'est Mélodie Massacre, par exemple, un magasin qui fédère les jeunes et qui, à partir de là, vont découvrir un certain nombre de groupes et constituer des groupes aussi. Est-ce que, tu en parlais un petit peu, est-ce qu'il y a un réseau de MJC qui permettent aux groupes de jouer, enfin un petit peu au moins, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi en Normandie. Les premiers groupes punk de 76-77 jouent en priorité dans des MJC parce que culture pour tous, etc. Donc on ne va pas exclure ce nouveau genre de musique. Et dernier point, est-ce que la presse locale, elle soutient les groupes locaux? Est-ce qu'elle en parle en mal ou en bien? Parce que dans la presse locale normande, on va défendre des groupes, alors, mais qui resteront anonymes. Hein. Est-ce qu'on retrouve cette presse qui s'empare un peu de cette nouveauté, qui ne connaît pas trop, qui parle de punk rock, de pub rock, de new wave, machin, et elle aide un petit peu à mettre en avant une visibilité à travers tous vos groupes que vous avez montés?
Voilà. Tu parles de l'époque 77. Bah,
plutôt l'apparition à partir de 76 jusqu'aux années, début des années 80.
Ouais, ouais. Voilà. Alors, là, on a un représentant. Bon, il y avait Jean-François Ribet à Sud-Ouest. Et puis, bien sûr, Patrick Scarzello, qui peut-être nous en dire un mot, de cette époque-là, où il écrivait les chroniques.
En fait, je suis complètement hors sujet parce que j'ai été punk sur la côte. Donc, je faisais un fanzine qui s'appelait Déchets résistants.
Donc, au four et moulin, toi.
L'esthétisme de la fange et tout ça. Mais en fait, la chance qu'ont eu également, pour comparer ce qui se passait ici et à Nice, c'est qu'en fait, ici, ils avaient Popeye dans le Sud-Ouest qui, effectivement, parlait en direct des groupes. Et nous, on avait les vieux journalistes de la vieille presse locale qui mettaient des gros titres où ils mettaient « Les punks sont à bout de souffle », en plein 77 ou 78. Et donc, tu avais heureusement Yuri Lanquette, fameux photographe, qui suivait les dentistes, les abjects et tous les groupes de Nice, et qui envoyait une lettre pour dire « Les punks ne sont pas à bout de souffle », qui était deux fois plus longue, et qu'après la presse publiait, parce que bien évidemment, il y avait quelqu'un qui se disait « Mais on est vieux, on est peut-être à côté de la plaque et tout ça ». Et surtout, Yuri avait des arguments, quoi.
Mais t'es arrivé quand à Bordeaux ?
Eh bien, au début des années 80 seulement. J'ai vu le dernier concert de Strychnine au Grand Parc. J'étais copain avec les Parfums de Femmes qui jouaient la même soirée. Et avant, si tu veux, c'était pour moi, c'était les Playboys, c'était Anti-Gang, c'était Streeter, c'était tous ces groupes-là, quoi.
Et sur les MJC, bien évidemment que les MJC ont joué un rôle très important. Puisque c'était les... Pardon. Les endroits où effectivement on pouvait jouer dans des conditions un peu, et puis avec des acteurs de terrain, quoi.
Alors on les trouvait complètement babos, c'est complètement d'une autre époque et tout ça, mais mes premières répètes c'était en MJC, quoi. À Beau Soleil, la banlieue ouvrière de Monaco, si tu veux, et c'était une MJC, il ressemblait pas du tout à ce qui était en train de se passer, mais c'était le seul endroit où ça se passait, quoi. Il n'y avait pas de rock school, quoi.
Mais la presse en général ne soutenait pas du tout le rock bordelais ni le punk. On se disait, bon, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Ah, il y a un petit encart de Popeye dans le Sud-Ouest, alors qu'est-ce qu'il va dire comme connerie encore? Et puis Scarzello aussi, quand il est arrivé à Bordeaux, il a commencé à faire des piges, hein, t'as placé quelques articles. Et là, on se disait, bon, là, c'est du n'importe quoi, mais finalement...
Merci. C'était le but.
Mais non, mais voilà, il était provoque aussi. Mais nous, les musiciens, on aurait rêvé de faire la une de Rock et Folk, mais on avait des petits encarts comme ça dans le Sud-Ouest, quoi.
Alors, tu crois pas si bien dire, parce que moi, en fait, je croyais écrire dans Rock et Folk. C'était juste le Sud-Ouest. Mais le titre, c'était Rock'n'Roll des connexions, parce qu'effectivement, Rock'n'Roll, parce que c'était indispensable... de se démarquer de toutes les années qu'on avait déjà connues du punk avant, mais des connexions, parce que c'est la grande déconnexion, Asphalt Jungle, quoi.
Alors dans ta question, il y avait quoi d'autre? Les MJC, oui, à la Benoge. Il y avait la salle de la Benoge qui était tenue par une assos, donc où on a joué. Mais il n'y avait pas vraiment un circuit des MJC à Bordeaux. Hein. C'était plutôt dans des bars au début. Je me rappelle, premier concert de Gamine de l'autre côté du pont, là...
Ici, il y avait 3 ou 4 MJC à Gradignan, Mérignac, Talence. Je sais qu'on a fait un Burigala Rock avec Strychnine où pendant une semaine, on n'a fait que des MJC. Et on a fini dans un foyer
Non, c'était en banlieue, hein. C'était en banlieue, oh, c'était pas Bordeaux. Hein. Et on a fini le dernier concert, je me souviens plus où, c'était dans un foyer où il y avait que des mecs. 300 gonzes, pas une nana. Ah ouais.
En général, il n'y avait pas beaucoup de nanas.
Ça s'est fini en destruction totale.
Juste, je voulais faire par rapport donc.
Il n'y a pas des concerts. Il n'y a pas des dames qui pourraient, je ne sais pas, un peu intervenir là. Est-ce que les femmes, quand même, elles ont joué un rôle assez important, quand même, déjà d'être devant les scènes, parfois, enfin, pour ceux qui ne crachaient pas. Et puis, elles étaient aussi au four et au moulin, quoi, un peu. Elles aidaient, elles faisaient parfois le secrétariat, etc., la diffusion, un peu. Enfin, ça, c'était plus sur les années 80, hein. 70, je pense pas. Mais bon, il n'y a pas des questions ou des interventions là sur les...
Alors, je voulais répondre. Jusqu'au début des années 80, il n'y a pas eu de concert à Bordeaux. On n'a vu aucun de ces groupes punk, rock, venir jouer ici. Et il n'y a eu que... c'est plus tard. Il n'y a eu que Mont-de-Marsan, le festival ouais. Punk de Mont-de-Marsan, où là, en effet, on a vu des images. On n'était pas loin. Moi, la deuxième édition, j'y ai été. Donc, on était beaucoup. Je crois que tous les musiciens, on y a tous été. Soit la première édition, soit la seconde, soit aux deux. Et comment ?
Ici, non. Les Clash non. sont passés en 81.
Oui, mais donc après.
Les Ramones, pareil, au Grand Parc à chaque fois.
Oui, mais après.
Au Palais des Sports, les Clash. Les Ramones.
Les Clash, pas
les
Sports.
Et les Ramones qui sont arrivés à 11h du soir.
Et quand
pardon, François. Et les Cramps à l'Aquarius, c'était quelle année ?
Ouais, pareil.
Bon, il faut savoir que. Sur les années 70, là, il y a quelqu'un qui pourrait en parler très, très, très bien. C'est Philippe Serra. Je ne sais pas s'il est toujours là. Non, Philippe parce que lui a connu tous les concerts dans les années 70 qui se passaient principalement à l'Alhambra, qui était la salle municipale du centre-ville où il y avait tous les concerts... Moi, j'ai vu des trucs dans les années 76, 75. Mon premier concert était en 75, c'était Soft Machine. Donc, c'était tous les groupes de rock progressif anglais qui sont passés en Gironde, beaucoup. Ça, c'était un peu leur fief, ouais. À part ça...
Et donc, c'est pour ça que je parlais du pub rock, parce que dans le sud-ouest, ce qui marchait vachement bien, c'était Eddie and the Outlaws. Ils sont passés à Bergerac, ils sont passés partout. Bijoux, ils passaient très souvent. Moi, je les ai vus à Périgueux. Little Bob Story, ils jouaient presque trois fois par an dans le sud-ouest. Dr. Feelgood, voilà. Ça a été un peu des figures. Et ça nous a donné un peu l'envie d'y aller aussi, parce que des mecs comme Barry Masters qui montaient sur les cintres au milieu des projos, qui sautaient sur la sono et redescendaient pendant le truc, ça a donné beaucoup d'inspiration à pas mal.
Ils donnaient des grands coups de pied dans les poubelles quand ils sortaient après le concert.
Et est-ce qu'il y a des radios, alors d'abord pirates puis ensuite libres, qui diffusaient soit certaines de vos extraits de cassettes désembobinés, soit au moins des émissions du rock tel que vous l'écoutiez ou le jouiez. Est-ce que ça se passait comme ça?
Très vite, on est passé, on a été interviewé, ils passaient nos disques, nos démos, etc. Très vite, les radios libres ont...
Mais il a fallu attendre 80
ans. C'est le plus important pour nous.
Il a fallu attendre Mitterrand 80, et nous on était encore avant, donc on était en but, on n'avait aucun moyen d'expression.
J'ai quand même envie de dire un truc, c'est pas pour défendre ma paroisse, puisqu'après j'y ai participé, on n'est pas des sauvages. Mais avant d'être à Bordeaux, en fait, il y avait ces gens de Pau qui faisaient ce fanzine, et il y avait effectivement des groupes, je me souviens d'un compte rendu de Stalag STO, peut-être Bergerac. Ou je sais plus où, mais on lisait déjà vos noms dans un fanzine, quoi.
Oui, les fanzines, c'était important. Ouais.
Ouais.
Et il y avait les premières radios pirates, elles ont été avant même la légalisation des radios libres. Il y en avait déjà, hein, à Bordeaux, il me semble. Ça se faisait au centre-ville, je ne sais plus, on avait été... Alors après, il y a les disquaires très importants. Donc il y avait Bulle, qui était le disquaire à Bordeaux, où tous les musiciens allaient, où on trouvait tous les disques. Et c'est là qu'il y avait un panneau sur la gauche avec des punaises. On mettait « je cherche un bassiste, je cherche un chanteur, j'ai un ampli à vendre », etc. Ça en était couvert. Et pas mal de groupes, dont Stalag, se sont formés grâce à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été recruté sur petite annonce chez Bulle. Nous cherchons un guitariste. J'ai passé une audition. Ils m'ont dit « Allez, fais-nous un rock'n'roll ». Donc j'ai fait une rythmique rock'n'roll à la Teenage Depression. Là, et puis j'ai été embauché comme ça. Et y avait Richard Brousse, qui était bassiste à l'époque, avant qu'il passe chez Strychnine, qui m'avait fait passer l'examen avec Jean. Voilà. Et donc c'était vachement important. Il y avait un magasin, je ne sais pas s'il y en avait d'autres.
Il y en avait deux. Il y avait Reporter Photo. Qui avait l'avantage où tous les disques étaient gratuits. On arrivait, une poche, on remplissait, on mettait une quinzaine d'albums et on ressortait. Et le vendeur nous disait. Et eux aussi, comme Gabi, ils ont fait faillite, on se demande pourquoi.
Alors, je me permets d'interrompre ce fabuleux débat autour de cette jeunesse bordelaise. Arias,
Cobra Musique.
On continue. Oui,
Cobra Musique.
Et on ne peut pas finir sans citer à Bergerac Dominique Dota, qui a fait énormément aussi pour le rock dans le sud-ouest. Et c'est lui qui m'a emmené à Mont-de-Marsan en 76 en disant « Tiens, viens, dis pas à ta mère, je t'emmène. » Moi, j'avais 17 ans. Il m'a posé là et c'est là que j'ai eu le flash. Quoi. Et lui, il avait tous les disques et c'est là il avait les imports anglais de God Save the Queen. J'étais le premier à acheter God Save the Queen en import anglais à Bergerac. Et c'est incroyable d'avoir un mec comme ça qui nous a... fait baigner dans la culture punk dès le début. Quoi.
Alors, messieurs, cette fois-ci, il serait temps, je pense, de tous nous restaurer et de continuer cette magnifique discussion autour d'un repas chaud. Et on invite, bien sûr, tout le monde.